Sur Zoom, vous pouvez changer votre nom. Votre micro n'est pas activé. Et là, vous m'entendez? Très bien. Merci de votre patience. Nous avons eu des problèmes techniques ce matin. J'aimerais vous souhaiter le bienvenue à ce webinaire de ce matin sur le série de webinaires sur le document de projet du fonds. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques sections clés du document de projet. Nous aurons 2 sessions de plus pour expliquer le reste du document. Et pour l'interprétation, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Et pour ceux qui vont intervenir, gardez votre caméra et votre micro allumés lors de la session, mais pour tous les autres participants, vous pouvez les éteindre. Nous allons enregistrer cette session en anglais et en français. Et la fonctionnalité questions-réponses est ouverte et vous pouvez y mettre vos questions lors de la présentation d'aujourd'hui. Nous allons essayer de répondre à ces questions lors de la session et pour tout le reste des questions, nous allons y répondre à la fin. Nous comptons avoir un sondage à la suite de cette session. Vos retours sont clés pour améliorer nos webinaires à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment compléter le PRODOC, le document de projet en soi. Nous avons un modèle et un document d'explication que nous allons mettre sur le site dans les prochains jours. Et si vous voyez la grande flèche sur notre site, c'est là où vous pouvez accéder à tous ces documents pour compléter le document de projet. Et il y a d'autres explications qui sont disponibles là-bas aussi. Avant de passer la parole, j'aimerais expliquer le corps principal du PRODOC qui comprend 10 parties et 4 annexes. Aujourd'hui, nous allons parler des informations sur l'entité candidate, le résumé de l'évaluation des obstacles, les informations générales et justifications. La quatrième partie sur la stratégie de mise en œuvre du projet. La partie 6, le calendrier du plan de travail et annexé aidé concernant les institutions de sécurité et les données sur la planification des déploiements de l'institution de sécurité. Ensuite, nous allons regarder le cadre des résultats du projet et budget détaillé demain. Et pour la communication de projet de gestion de risque, ce sera jeudi. Maintenant, je vais passer la parole à Martha pour lancer la session d'aujourd'hui. Vous avez la parole, Martha. Merci beaucoup, Deb. Je vais partager le document. Pouvez-vous confirmer que vous voyez le modèle du document? Oui. Je le vois. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir tout le monde, selon où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons expliquer la première partie. Voici le modèle pour les financements flexibles de projet. Ce modèle sera téléchargé sur le site du fonds. Pour la première partie, ici, nous regardons les informations sur l'entité candidate, le bénéficiaire du fonds. Ici, il y a deux situations. Soit c'est une entité nationale, un gouvernement, ou bien un organisme de l'ONU participant. Cela est déterminé au niveau national. Et pour le quatrième cycle de programmation, nous avons constaté que les pays fournisseurs de contingents et de personnel de police, parmi eux, il y en a certains qui sont en partenariat avec certains organismes de l'ONU, comme l'ONU Femmes. Il y a des exemples comme le Côte d'Ivoire, le Cambodge et le Sénégal. Et dans ce cas, quand il y a un partenariat avec une agence de l'ONU, le bureau de pays de l'ONU Femmes, le représentant de cette agence, c'est le chef de cette agence qui sera le bénéficiaire. Quand c'est le TPCC qui est le bénéficiaire principal, il y a des exemples comme le Fidji, le Togo. Dans ce cas, le gouvernement signe comme bénéficiaire du fonds. Et dans ce cas, nous voulons que la plus haute autorités prennent cette responsabilité financière et juridique. Ici, nous voyons l'entité nationale. Dans ce cas, l'entité nationale est l'institution de sécurité. Si, par exemple, il s'agit d'une force armée, dans ce cas, le responsable serait le ministère de la Défense, signé par le ministre de Défense ou des Forces armées. S'il s'agit d'une gendarme ou une institution de police ou une institution sécuritaire, dans ce cas, la haute autorité serait une commissaire de police ou le ministère de l'Intérieur ou d'autres ministères pertinents dans le pays. Nous voulons le plus haut niveau de responsabilité possible parce qu'il faut un haut niveau de responsabilité afin de mettre en place le projet. Encore une fois, nous disposons de cette entité nationale et l'entité d'exécution a la responsabilité sur certains composants de contenu. Par exemple, l'approvisionnement de services d'une organisation, s'il s'agit d'une institution de recherche ou une OSC, Et dans ce cas, il faut partager ces détails dans cette boîte ici. À savoir, un bénéficiaire peut également être une entité d'exécution. Il faut bien représenter cela sur cette fiche et ça dépend de la situation dans votre pays. Quand il s'agit d'un TPCC qui est signataire ou bénéficiaire principal, l'entité coordinateur du pays doit signer ici. Par exemple, le ministère des Finances de votre pays. À la diffé et c'est différent de l'entité nationale qu'il s'agit d'une institution de sécurité. Page suivante. Vous devez également partager les points focaux. Le point focal pour l'entité nationale doit être partagé ici, ainsi que pour l'organisme de l'ONU participant quand un TPCC est en partenariat avec une agence de l'ONU. Le point focal dans ces deux cas doit autant que possible doit être retenu tout au long du projet. Et pour ces projets, nous parlons de jusqu'à 2 ans et garder le même point focal facilite ce processus. Passons au budget.
Si le financement fourni et puis la période 24 mois, ça veut dire 2 années. Et ici, on va spécifier toutes les choses requises avant que le projet ne commence. Donc, vous voyez tous les accords ici, c'est un mémorandum d'entente. Donc, ça doit être signé par l'entité de coordination nationale avec un bureau de financement ou du fonds multipartite. S'il s'agit d'une agence, au moins ONU-Femmes doit signer dans le mémorandum d'entente. Donc, les 2 années sont calculées et à partir du moment où les fonds sont payés ou remis au bureau multipartite du fonds, eh bien, ils sont dans les mains du récepteur, du bénéficiaire. Donc, en termes du financement disponible, c'est très clair. Je crois que dans les lettres, vous avez déjà ce montant. Et la limite de financement est 750 000 $ des États-Unis. Donc, vous voyez que le comité de pilotage est arrivé à un accord et si le projet a une composante infrastructure, le maximum est 350 000 $ à nouveau. Et cela est spécifique, dépendant du contexte. Mais c'est le seuil. Donc, nous passons maintenant à l'HRDDP. Vous voyez ici qu'il y a des conditions requises qui font partie du processus de vérification. Et ils vont être traités dans notre webinaire de jeudi, mais notez qu'il y a des conditions à remplir également. Et ça fait partie de l'assurance de qualité vous avez également le HACT et là, vous voyez qu'il y a une évaluation de capacité sur la base des risques et dans les cas où le gouvernement reçoit des fonds directement du MPTFO, donc et cela doit être fait par le IF. Donc, et nous avons également la politique de vérification en termes de droits humains. Et dans ce cas-là, il nous faut également une autre évaluation. Donc, on va faire l'évaluation pour chercher d'alléger, d'atténuer ces risques qui ont été identifiés. Et nous allons travailler pour garantir ce soulagement. Et les mesures sont réfléchies dans le produit ou dans les résultats. Et nous avons ici quatre résultats, vous voyez. Et nous voulons dire que votre projet peut provoquer plusieurs résultats. Donc, normalement, tout cela est reflété sous résultat. Et la case suivante, et c'est l'Agence des Nations Unies qui participe. Donc, ceci est requis par MPTF, par le bureau du fonds multipartite. Et là, il faut donc spécifier. Et maintenant, on passe au rôle et aux organisations clés d'appui du projet. Ici, vous devez nommer toutes les organisations qui vont offrir de l'appui pour la mise en œuvre du projet. Donc, ici, on ne va pas voir les entités de mise en œuvre ni les bénéficiaires des fonds. Ici, il faut donc inclure les rôles des bénéficiaires. Et donc, on passe à la partie 2, Agathe. Donc, dans cette partie 2, nous allons vous donner ou vous demander de nous de faire un résumé. Donc, des résultats et des évaluations, des obstacles, cela est très important. Vous devez donc nous mentionner les barrières principales, les difficultés principales et en rouge. Et puis, vous avez le titre de votre évaluation. Il faut spécifier la date de publication et de mise en œuvre. Vous pouvez écrire ou rédiger un résumé exécutif et un résumé des résultats. Et puis, sous B, vous devez donc mentionner ou expliquer pourquoi ces problèmes où ces obstacles se sont présentés. Vous connaissez tous le MOAB. Donc, vous allez mentionner les principales difficultés en ordre de difficultés et tout cela parce que cela a besoin d'être urgentement traité. Et donc, les obstacles ne doivent pas être mentionnés de manière générale. Non, nous voudrions savoir quels ont été en détail les obstacles clés identifiés pour votre institution et même les résultats du rapport et non pas des barrières globale ou des barrières générales ou des difficultés générales. Et puis, nous avons les actions recommandées qu'il faut mentionner ici sur la base des recommandations faites dans le rapport. Donc, ceci doit être spécifié très bien et ceci doit être relié aux obstacles. Autrement, le fonds ne sera plus capable de financer une activité qui n'est pas articulée ou liée aux barrières, aux difficultés en haut qui sont rédigées en rouge. Donc, rappelez-vous, cette partie-ci, il est important de souligner quelles actions réellement sont les plus urgentes et auxquelles il faut accorder une priorité. Et ceci est très important pour nous et nous voulons donc que l'on mentionne les difficultés ou les barrières les plus graves, les plus sérieuses pour que vous avez identifiées dans le rapport MOEP, de manière à pouvoir identifier la cause principale de ces difficultés. Par exemple, si dans votre lettre d'intention, vous partagez une barrière moyenne ou orange qui est sur laquelle vous voulez vous concentrer, et nous allons probablement vous dire de vous axer seulement sur les rouges, sur les barrières principales. Et celle-ci est l'activité proposée. C'est pourquoi la partie 2 est vraiment très importante pour nous. Donc, maintenant, nous attendons vos questions et moi, avec Stéphanie, nous serons là pour vous donner des réponses. S'il n'y a pas de questions, on peut laisser les questions pour la fin. Donc, je donne la parole à Stéphanie. Merci, Agathe. La troisième partie du modèle du document du projet a trait aux détails du produit et à la justification. Donc, il n'y a pas un projet individuel qui peut aborder toutes les barrières aux recommandations identifiées. Chaque projet a une durée limitée et un budget limité. Et donc, il faut établir des priorités. Et il faut donc s'axer du point de vue programmatique. Le but de cette partie du produit est justement de souligner quelle est l'approche programmatique à prioriser et comment justifier cette priorité. Et en outre, et la pertinence, il faut montrer la pertinence stratégique de votre point focal programmatique et également, il faut montrer la cohérence stratégique de votre projet. Sur la base de l'évaluation des barrières, des résultats et des trouvailles, des recommandations. Et également, il faut inclure le mandat spécifique du fonds. Et vous pouvez également mentionner les efforts faits et l'appui des parties prenantes. Donc, et passons au modèle. Tout d'abord, il sera important de donner des réponses résumées qui reflète le point focal de votre projet et il nous faut donc des renseignements concis et puis on va parler du focus programmatique.
Si le projet vise à en résoudre plusieurs écarts, il faut bien l'expliquer. Comment est-ce que cette priorisation, comment est-ce que cela est lié aux autres priorités, des obstacles? Pourquoi est-il opportun d'agir sur ce problème, maintenant? Ces questions vous aident à répondre à cette question générale. Comment est-ce programme nécessaire? Et tout cela explique de quoi s'agit le projet et quelles sont ses échéances et bu son budget. Vous voyez dans le modèle qu'il y a tout d'abord la question d'expliquer les objectifs, les résultats et les activités du projet. Parfois, ces concepts ou ces termes peut-être difficile à comprendre. Nous aurons une discussion sur ces termes demain lors du deuxième webinaire lorsque nous parlons des cadres de résultats. Mais pour l'instant, juste pour vous donner une petite clarification ou rappel, voici une manière simple de penser aux activités et résultats. Les activités sont mises en œuvre pour créer des résultats et les résultats sont censés mener à des résultats plus globaux. En pratique, ce sont plusieurs actions mises en œuvre lors du projet et la finalisation de plusieurs activités vont réaliser certains résultats qui sont souvent, par exemple, un renforcement de capacités, la disponibilité d'outils ou une amélioration de processus, juste pour en citer quelques-uns. Un exemple plus concret sur lequel s'appuyer pour cette partie. Et par exemple, disons que dans le projet, une des activités est sur les formations pour les femmes policières. Et cette activité aide à renforcer la préparation des femmes pour leur déploiement. En au pays. Donc, cette activité mène à certains résultats qui ont été accomplis. Et les résultats globaux sont d'un plus haut niveau grâce au renforcement des capacités, aux outils, au système amélioré. Ça concerne plus des changements de comportement ou des changements institutionnels. Et c'est dans ce cas où une hausse dans la participation des femmes dans les unités policières est un résultat global. Et revenons au modèle. Il faut expliquer les activités, les résultats et les résultats globaux. Disons que vous créer un projet pour favoriser la participation des femmes dans les des activités de paix en s'appuyant sur l'évaluation des obstacles. Voici une manière d'expliquer le cadre du projet. Le projet vise à favoriser la participation des femmes déployées dans les opérations de paix de l'ONU. Un premier résultat serait le renforcement des capacités des femmes lors des opérations qui sont nécessaires pour leur déploiement. Et les activités liées sont des sessions de formation, des exercices simulés, des ateliers de déploiement et des séances de coaching. Un deuxième résultat serait le renforcement des systèmes favoriser la participation des femmes de ces opérations et les activités liées seraient des changements dans les formations en lien avec des exigences pour le déploiement. Il faut bien expliquer chaque partie de cette manière. Parce que la proposition finale sera évaluée par plusieurs parties prenantes et tout le monde n'est pas au courant avec votre contexte et comment il faut agir dans ce cadre-là. C'est pour cette raison qu'il faut expliquer dans autant de détails que possible. Un autre point à souligner à ce stade est que les activités du projet devraient refléter la réalité et les activités proposées doivent être en lien avec l'échéance, le budget et les partenariats possibles, ainsi que les risques possibles lors de la mise en œuvre. D'après notre expérience, une quantité plus limitée d'objectifs et d'activités mieux planifiées est préférable que d'avoir trop d'activités. Et les parties expliquées ici doivent être alignées avec les autres parties du document, comme le budget détaillé, par exemple. Passons à la section sur vos motivations pour votre candidature. Là, il faut expliquer le rôle prévu grâce au soutien du fonds. Des candidats réussis normalement expliquent quels défis institutionnels seraient abordés par ce financement, pourquoi les systèmes existants ne sont pas suffisants et pourquoi le soutien du fonds est stratégique à ce stade. Nous encourageons autant de transparence que possible sur vos forces, parce que cela renforce la crédibilité de la proposition et cela justifie mieux son côté opportun, pertinent. Dans cette partie du modèle aussi, nous allons parler de vos efforts actuels en nous axant sur l'appropriation du projet et sa continuité. Nous ne voulons pas que les projets soient limités dans le temps. Donc, il faut expliquer comment ce projet renforce tes efforts actuels. Et en ce qui concerne la section d'autres supports, cette partie nous aide à mieux comprendre le paysage général du maintien de paix pour les femmes dans votre contexte. Dans cette partie, vous devez expliquer certaines choses, comme par exemple qu'est-ce qui existe déjà en ce qui concerne le support et qui le fournit. Il faut mettre en avant comment ce projet proposé du fonds est en complément de d'autres initiatives et au lieu de répéter le travail. La partie suivante concerne les liens avec la gouvernance du secteur du réforme de la, du secteur sécuritaire. Comment est-ce que ce projet renforce les cadres existants et comment est-ce que c'est en lien avec tes plans et des politiques institutionnelles et des priorités du réforme du secteur de sécuritaire. Là, il faut parler aussi des liens possibles avec d'autres acteurs de la société civile et des gouvernements. Cette partie nous aide et aide le comité de pilotage à comprendre l'environnement dans lequel votre proposition se situe. Il s'agit d'une autre invitation à renforcer la pertinence et de votre projet. Et maintenant, nous allons passer à la partie suivante et c'est Martha qui va prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Pour la stratégie de mise en œuvre du projet, dans cette section, il y a plusieurs questions principales qui vont vous aider à expliquer vos activités proposées et comment vous allez les mettre en œuvre afin d'aborder les obstacles priorisés et identifiés dans les sections précédentes. Les questions clés ici sont comment le projet aborde les obstacles et les causes profondes. Il faut expliquer comment chaque activité proposée aidera à les aborder. Dans certains cas, si une activité aborde plusieurs obstacles, il faut expliquer comment cela va fonctionner. Réfléchissez à vos obstacles et vos activités proposées et comment cela sera lié à l'égalité de genre au sein de vos institutions. Ensuite, nous avons le séquençage et la mise en œuvre. Ici, les questions clés sont quand, qui et quoi. Quand auront lieu les activités? Nous en parlerons lors de la session sur la période, mais nous disposons de 24 mois, de 2 ans, divisés en trimestres. Il faut donc réfléchir aux activités, comment vous allez les organiser au sein de ces 2 années. Par exemple, il ne faut pas mettre toutes les activités dans la première partie de la première année. Il faut penser à ce qui va venir en premier. Quelles sont les réussites faciles à réaliser et quelles activités nécessitent plus de travail? Et qui les exécutera? Est-ce qu'il s'agit de l'entité de l'ONU? Est-ce que vous allez embaucher des consultants ou des formateurs? Il faut réfléchir à qui va vous aider à tout mettre en œuvre. L'ordre est important aussi lorsque nous parlons du séquençage. Disons par exemple que dans votre pays, vous avez une activité à mettre en place au niveau national et il y a plusieurs régions au sein du pays. Vous pouvez prioriser plusieurs régions comme région pilote avant de mettre en place l'activité à travers le pays. Il faut réfléchir à quelle région accorder la priorité. Ensuite, la contribution au changement institutionnel. Voici la question et comment ces activités aideront-elles votre institution à progresser vers l'égalité des sexes et l'amélioration des conditions pour les femmes casque bleu? Ici, nous nous concentrons sur les changements à long terme visés suite à la mise en œuvre de projets. Par exemple, concevoir et mettre en œuvre une politique permettant aux femmes et aux hommes de signaler le harcèlement ou la violence sexuelle. Cela garantit un environnement de travail sûr pour tous et pourrait conduire à un meilleur recrutement et à la rétention des femmes, ainsi qu'à une augmentation globale du nombre de femmes dans l'organisation. Ensuite, nous allons regarder les changements attendus à court et à moyen terme visés pour ce programme. Réfléchissez à quels sont les changements immédiats à court et à moyen terme pour ce projet. Ensuite, nous avons les conséquences inattendues ou négatives.
Il peut y avoir des conséquences négatives, par exemple, ils peuvent se découler sans planification, par exemple, résistance, des reculs ou de mauvaises interprétations. Donc, et ici, il faut prendre des mesures pour réduire ces risques. Par exemple, et si vous planifiez d'augmenter la participation des femmes dans votre organisation à travers une campagne de recrutement, cela est axé sur le fait d'attirer des femmes. Mais il se peut que cela ait interrompt une dynamique existante. Et cela, donc, conduit à une tension ou un conflit de la part de certains hommes ou collègues ou d'autres parties. Donc, la présence des femmes peut être fait l'objet d'un problème culturel. Et ça, donc, doit faire partie d'une activité pour alléger, pour ne pas avoir des conséquences qui ne sont pas escomptées. Et c'est pourquoi on met l'accent sur la priorisation. Et ici, vous voyez l'expérience que nous avons. Donc, les propositions doivent normalement s'axer sur la partie supérieure. Il y a trois barrières prioritaires qui ont déjà été mentionnées. Et tout cela est identifié dans le rapport d'évaluation du mémorandum d'entente. Et les activités ici correspondent à plus d'une barrière. Et vous voyez donc les résultats escomptés du projet. Et donc, tout le projet doit continuer d'être centré et faisable dans une période spécifiée et selon un budget alloué. C'est pourquoi il faut faire attention toujours aux priorités. Et en outre, et voyez, il y a des approches innovatives. Donc, qu'est-ce qu'il faut demander pour savoir, ou qu'est-ce qu'il faut se demander pour savoir si les activités sont innovantes? Expliquer, par exemple, les aspects innovants de l'activité proposée au sein de votre institution de sécurité. Est-ce que vous êtes en train d'introduire une nouvelle approche ou une nouvelle méthode faisant partie de ce projet? Quelle est l'aspect unique de cette approche? Et tout cela est clé. Donc, et cela fait partie du projet. Donc, et si on passe à la durabilité, ici, on décrit clairement les mesures qui vont nous garantir des résultats durables et qui sera responsable de cette mise en œuvre continue quels sont les bénéfices. Donc, si ces projets durables nous disent que les politiques sont renforcées et donc cela doit faire l'objet d'un maintien des ressources et du leadership également. Les engagements doivent être également maintenus. Voilà le changement de l'organisation et des comportements positifs. Disons que cela fait partie intégrale. Donc, ici, les questions clés sont comment est-ce que ces activités appuyées par le projet, comment est-ce qu'elles vont être appuyées par l'organisation et rendues durables par l'organisation au-delà des dates limites. Et par exemple, on peut citer des cas. Et dans les cas où un budget est alloué, eh bien, une activité appuyée par les ressources de l'EFI, l'EIF, par exemple, eh bien, tout cela va durer 24 mois, comme je vous ai dit au début. Et est-ce que les budgets alloués ici, est-ce qu'elles vont être allouées par le ministère? Et par exemple, ça pourrait être le ministère des Finances ou le ministère de la Défense. Et puis, l'objectif est que les fonds soient là pour appuyer des changements à long terme au sein des institutions. Et puis, qu'est-ce qui vient après? Parce que parfois, il peut se faire qu'on ait besoin d'appui au-delà de la période de 24 mois. Donc, on passe à la section de gestion des projets. Cette section est très importante du point de vue de la gestion des projets. Comme vous voyez que et là, il faut établir un comité de pilotage ou un comité de mise en œuvre technique et ayant des responsabilités claires en matière de gestion des données et des renseignements du projet. Et en outre, il faut faire beaucoup de travail en termes d'élaboration de rapports et de préparation du cadre de travail. Donc, et il y a également ici toute une série de questions. Et qui va gérer le projet? Quels sont les rôles et les responsabilités du gestionnaire du projet? Si c'est le comité de pilotage, il faut le spécifier. Qui a des rôles clairement établis? Quelles sont les responsabilités? Et il faut également faire référence à cette partie-ci. Et en termes de la capacité organisationnelle, à nouveau, il faut penser à la capacité de votre institution pour mettre en œuvre le projet. Donc, si l'institution de sécurité que vous dirigez pense aux structures capables au sein de votre organisation qui vont appuyer la mise en œuvre du projet, par exemple, disons que il faut toujours veiller à garantir la mise en œuvre positive du projet. Et puis, en termes de gestion de l'information, et comment est-ce qu'on va gérer les résultats, l'information financière, les documents, et en outre, comment allez-vous garantir que l'information est en sécurité et stocké en sécurité et puis récupéré. Et là, il faut donc penser aux procédures des opérations standards. Comment on va gérer l'information? Est-ce que vous connaissez les processus nécessaires? Ou comment allez-vous faire si l'individu qui est l'expert au sein de l'équipe n'est pas là? Donc, voilà. Et les aspects les plus importants. Et en termes de stockage des renseignements, vous pouvez considérer un SharePoint ou une place qui soit accessible au groupe. Et en termes de composition du groupe, eh bien là, il faut assurer la présence de femmes et hommes. Donc, voilà. Il faut identifier les capacités les plus fortes en termes de gestion de projet et communication budgétaire, reporting et récit. Donc, et dans cette section particulière, nous avons des capacités très fortes qui doivent être soulignées. Et si l'on passe à l'organigramme, et nous voyons ici les liens entre les différentes structures qui ont été établies. Et nous avons le comité de gestion du projet, le comité de mise en œuvre et les partenaires du projet. Donc, voilà également qu'on a les parties prenantes clés. Et il faut présenter seulement un organigramme. Et l'organigramme doit montrer les postes, les titres et les rôles. Et nous savons que les organigrammes sont des documents vivants. Donc, tous les groupes ou les équipes du projet doivent assurer que qu'il y ait un gestionnaire du projet ou un point focal pour le projet. Et bien sûr, tout cela doit durer au cours de tout le projet et on va devoir consacrer trop de temps à leur préparation et pour qu'ils connaissent et se familiarisent avec le projet et pour qu'ils puissent également prendre des décisions. Donc, vous devez nommer et spécifier qui est le point focal de l'entité nationale et de l'entité des Nations Unies. On procède donc. Et voilà. Ici, on parle du contrôle du projet, du suivi du projet, du reporting et également de la gestion des données. Oh, maintenant, ceci sera traité demain, dans la séance de demain. Passons donc à la section des partenariats du secteur institutionnel. Vous voyez ici les partenariats et qui vont être impliqués dans le projet, et les partenariats existants et les partenariats nouveaux. Et là, donc, il faut parler des bailleurs de fonds, des organisations de la société civile, des ONG, des institutions de recherche et des ministères. Et il faut également penser au nouveau partenariat que le projet va vous permettre d'établir. Et pour, par exemple, mettre en œuvre certaines composantes. Et tout cela, donc, est un point important. Et tout cela est clé et pour la durabilité du projet au-delà du financement du fonds d'initiative ELSI, de l'IEF. Et en outre, à ce point-ci, il faut jeter un œil à l'entourage de réformes institutionnelles plus larges. Et il faut indiquer l'organisation, leur type, leur nature de rapport, s'il s'agit de quelque chose de nouveau ou d'existant. Et voilà les activités lesquelles doivent être énumérées dans la partie numéro 1. Donc, vous êtes invité à penser à des façons innovantes de travail. Pour travailler, par exemple, avec les organisations de la société civile, nous avons vu des organisations de la société civile qui ont des connaissances spécialisées et des expériences clés en termes d'égalité des sexes, d'égalité avec les femmes, en termes de paix, sécurité, etc., d'inclusion sociale. Et ces organisations peuvent nous fournir des idées très valables et les meilleures pratiques. Et également, on a la possibilité d'obtenir des formations dans des programmes. Il est important de profiter de l'expérience de ces ressources et des réseaux. Donc, ici, on s'axe sur la valeur ajoutée des partenariats, et soit qu'il s'agisse de partenariats existants ou nouveaux. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je passe la parole à ma collègue. Je vais voir dans le chat.
Je vais passer la parole à Stéphanie pour parler du calendrier et du plan de travail. Merci beaucoup, Martha. Comme vous le voyez, vous voyez le tableau disponible dans le modèle. C'est assez simple à comprendre. Là, il faut expliquer les différentes activités du projet ainsi que les activités d'appui. Vous devez indiquer aussi le calendrier de mise en œuvre pour chaque activité clé et activité d'appui, ainsi que les responsabilités attribuées. Ce n'est pas un calendrier détaillé parce que nous travaillons en trimestre. Le calendrier du plan de travail ne devait pas être considéré comme une simple exigence administrative. C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, mais c'est vrai, quand vous commencez à planifier les activités dans un vrai calendrier, nous commençons à comprendre que certaines activités nécessitent plus de temps de préparation que prévu et plus de coordination. Il y a plus d'étapes d'approvisionnement, d'approbation, ou bien plus de capacités que prévu au départ. Dans le pratique, certaines activités impliquent plusieurs étapes. Par exemple, pour une campagne, il faut coordonner avec des ressources humaines, et il faut valider les matériels, et il y a des étapes d'approvisionnement, il faut mobiliser les parties prenantes, tout cela avant de commencer. Un autre exemple, s'il faut modifier les formations, pour cela, il faut évaluer les besoins, engager le leadership, et faire beaucoup d'approbation avant de le mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à développer le calendrier de manière collaborative et de penser aux différentes étapes comme l'approvisionnement, la logistique, l'administration et les équipes de suivi et d'évaluation pour que le calendrier soit réaliste et faisable. D'après notre expérience, les projets avec une quantité plus limitée d'activités bien priorisées sont plus faisables et ont plus d'impact comme projets trop ambitieux. Passons à la partie suivante du modèle. Comme nous l'avons dit, certaines parties seront abordées lors de d'autres sessions, par exemple la partie 7 sur la communication, la partie 8 sur le budget détaillé, la partie 9 sur le reporting et les exigences d'évaluation. Nous aurons d'autres webinaires dans les jours à venir. Par exemple, demain, nous allons parler du budget et le cadre de résultats. Et le jeudi le 21 mai, nous allons aborder les parties 7 et 8. Nous allons conclure cette discussion avec les annexes qui sont également très importantes. Et pour cela, je vais passer la parole à Agathe. Merci. Merci Stéphanie. Nous avons ici annexé sur les données relatives au personnel des institutions de sécurité. Vous avez déjà rempli cette partie lors de l'étape manifestation d'intérêt, donc vous êtes déjà au courant. S'il s'agit d'une organisation militaire, il faut remplir la quantité et pourcentage de femmes par grade, comme officier. Ici, nous voulons savoir la quantité de femmes, le pourcentage de femmes, la quantité d'hommes et le total. Assurez-vous de faire cela pour l'institution globale et que tout cela est correct. Ensuite, si vous êtes une organisation de police, il y a un tableau différent. Pardon, j'ai oublié le tableau par corps ou par catégorie pour les rôles de combat, appui service. Ici, il faut expliquer le contexte de votre organisation sécuritaire et où se situent les femmes. Après, pour la police aussi, encore une fois par grade, pour les officiers, et après, il faut partager la quantité de femmes pourcentage pour les hommes et les femmes. Là aussi, vous avez l'occasion de partager les différents grades d'officiers. Ensuite, en bas, passons à l'annexe D sur la planification des déploiements. Dans ce tableau, nous voulons voir les données actuelles pour 2026 et je vous conseille de consulter le site du fonds. Sur notre site, nous utilisons les sites du DPO et vous pouvez voir la quantité de femmes et d'hommes pour les OM, les OEM et les UPC. Et tout est bien précis. Peut-être un de mes collègues peut partager le lien du site. Après, vous allez partager les cibles de déploiement pour 2027, 2028 et 2029 dans ce cas. Et soyez réaliste dans la mesure du possible. Je sais que dans le contexte actuel du maintien de la paix, Nous ne prévoyons pas à un déploiement accru en général, mais nous voulons voir comment cela peut évoluer au fil du temps. Et je vous conseille de voir avec votre point focal du DPO pour cette partie. Mais nous attendons à ce que les quantités globales restent pareilles, mais nous voulons voir un pourcentage accru des femmes au fil du temps. Est-ce qu'il y a des questions sur les annexes jusque-là? Je vais partager le lien ou bien Martha l'a déjà fait. C'est très utile pour 2026. S'il n'y a pas de questions à ce stade, je vais passer la parole à Martha pour la session de questions-réponses. Merci, Agathe. Je regarde s'il y a des questions. Je pense qu'il y a des commentaires dans le chat. Agathe et Stéphanie, vous pouvez voir, il y en a quelques-uns en français. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. C'est le moment pour tous les participants. Ou sinon, vous pouvez les écrire dans le chat. Je ne vois pas de main levée. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez quand même poser vos questions. Vous pouvez nous envoyer un mail et nous allons partager tous les documents, les modèles. Tout sera bientôt sur le site. Comme je ne vois pas de main levée. Je vois des questions. Quelle est la date limite pour l'envoi des propositions? Cela sera partagé après le lancement par pays et votre point focal va vous l'expliquer. Le secrétariat du fonds va organiser des réunion de lancement suite à ces webinaires. C'est la seule question que j'ai vue pour l'instant, si je ne manque pas quelque chose. Permettez-moi d'intervenir, Martha, via les IDEB. Nous aurons tous les modèles en anglais et en français et en espagnol pour les groupes de TPCC d'ici demain sur le site. Vous pouvez consulter notre site et cliquer sur cycle de programmation, quatrième cycle. L'information se trouvera en haut de page. Et nous gardons cette information pour le lancement et pour nos archives. Et ce sera prêt d'ici demain. J'ai un point supplémentaire sur les annexes par rapport au calcul de pourcentage. C'est une leçon apprise lors du deuxième et troisième cycle et de certaines manifestations d'intérêt pour le quatrième cycle. Lorsque vous calculer les pourcentages, il ne faut pas utiliser tous les pourcentages de la colonne. Cela ne marche pas au niveau pour vos calculs. Il faut utiliser la quantité totale de personnes déployées pour calculer le pourcentage. Mais ce qu'il ne faut pas faire est d'additionner tout ce qui est dans la colonne. Je vois que dans le chat, il y a quelques questions en français. Peut-être vous pouvez les lire. Stéphanie pour que nous ayons tout en tête. Oui, nous allons organiser une réunion de lancement avec vous, comme Martha l'a dit, et vous aurez l'occasion de nous poser plus de questions. Et nous restons en contact de manière régulière. Un point focal du fonds vous sera attribué et n'hésitez pas à lui poser vos questions. Il y a d'autres questions sur le calendrier. Ce sera décidé lors de la réunion de lancement. Mais nous espérons que les projets commenceront en 2026. C'est ce modèle qui sera utilisé pour développer le projet, pour que cela soit bien clair. Il y a certains pays qui ont des projets différents avec des différentes institutions de sécurité. Il y a une question dans le chat sur s'il est possible d'avoir différentes sources de financement de différentes institutions. Et les organisations présélectionnées ont été informées. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Mais n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a d'autres questions. Et je sais que Colonel a voulu le modèle en français. Nous allons partager cela. Il y a une autre question sur Chant TV dans le chat. Voulez-vous poser votre question sur l'organisation de partenariat? Vous voulez dire le partenariat entre l'ONU Femmes et l'institution sécuritaire ou d'autres partenaires? Vous avez la parole. Merci. Bonsoir, chers collègues. Dans le modèle de proposition, il y a une section d'identification de l'organisation de la société civile partenaire ou mobilisée pour appui. Bien sûr, il y a le partenariat entre l'ONU Femmes, mais disons qu'il y a des parties tiers d'OSC à identifier à ce stade lors du développement de la proposition. Et si le projet est accepté et nous procédons à la mise en œuvre et il y a un changement du CSO, est-ce que c'est un problème? J'ai une deuxième question concernant le processus de ressources humaines du diligence voulue. Disons qu'il y a une organisation qui travaille avec l'ONU Femmes. Bien sûr, nous ferons tous les processus, mais s'il y a une subvention au financement octroyée directement à d'autres parties, est-ce que cela reste flexible? Vous avez la parole, merci.
Merci. Merci de votre question. Rapidement, je vais vous donner une réponse et les collègues peuvent compléter. En ce qui concerne le partenariat, nous attendons que cela sera identifié durant le stage, l'étape du développement de la proposition. Voilà l'intention. Et nous avons mis l'accent surtout sur les institutions clés qui vont mettre en œuvre le projet. Donc, cela doit être cohérent dans la mesure du possible. Et surtout, il faut spécifier les points focaux. S'il y a d'autres qui vont être là pour appuyer une composante particulière, et il faut le savoir, il faut le spécifier à ce stade. Cela est clé pour l'étape de développement de la proposition. Donc, comme ça, nous allons avoir clairement une idée du développement de partenariats très forts. En ce qui concerne le HRGDP, eh bien, et je pense que cela ne touche pas les organisations de la société civile. Oui, nous sommes en train de parler de l'institution de sécurité et donc nous allons, je sais que le IF va engager un consultant international. Donc voilà le contexte. Et tout cela pour donner de l'appui aux forces de sécurité non UN. Donc, cela fait partie du processus de la politique de vérification. Et parties prenantes clés vont donner des réponses aux questions posées par les consultants. Voilà l'évaluation. Il y aura une évaluation générale de la part sur l'institution de sécurité. Anna, vous avez levé votre main?
Oui, j'ai levé ma
Anna,
main.
est-ce
Bonjour.
que tu nous entends?
Si, je vous entends, je vous entends. Bonjour, Déborah, bonjour, chers collègues. Oui, j'ai levé ma main, je voulais juste poser une question. Je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, je voulais poser une question par rapport à l'évaluation HRDDP. Voilà, pour nous qui avons réalisé l'évaluation il y a moins d'un an, est-ce qu'on va devoir réaliser encore une évaluation pour le projet détaillé? On l'a réalisé pour les militaires, pour le MOHUP. Est-ce qu'on va devoir le faire encore pour la formulation détaillée? Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci.
Donc, il n'y a plus de questions et je vais donner la parole donc à Deb pour l'allocution de clôture. Merci beaucoup, Martha et chers collègues, de votre exposé très détaillé. Et cette orientation est disponible pour ce quatrième cycle de programmation. Et disons que cela est fondé sur les leçons tirées et les observations tirées des projets que nous avons appuyés dans le passé et au cours du premier, deuxième et troisième cycle de programmation. Donc, nous avons un groupe qui a travaillé étroitement avec le secrétariat pendant longtemps et ils vont être impliqués également. Donc, on compte sur une expérience profonde et enrichie. Et je voudrais vous demander donc de travailler avec les leaders de vos projets et de travailler également et d'utiliser surtout cette expérience profonde que nous avons maintenant collectée au secrétariat. Avant de finir, je voudrais vous inviter à répondre aux questions qui vont être posées dans ce sondage pour savoir si vous pouvez donc nous donner votre retour. Puis, il y aura un deuxième sondage avec des questions également. Donc, veuillez répondre à ce questionnaire. Merci. Quelques secondes de plus pour ce sondage numéro 1. Je pense qu'il n'y a plus de réponse. Donc, on peut passer au deuxième sondage ou questionnaire. Ça va nous aider beaucoup. Et ici, vous avez le sondage numéro 2. On va vous donner quelques secondes de plus. Pour terminer, nous allons passer ou changer les prochaines séances à l'utilisation de la plateforme Zoom. Nous allons vous donner les liens mis à jour et si, veuillez donc faire circuler ce changement. Et nous nous excusons. Et nous sommes désolés pour le fait qu'on a commencé tard ce matin pour des problèmes techniques avec la plateforme. Donc, je vois ici les réponses au sondage numéro 2 et je vous réitère que le point focal du secrétariat va travailler très étroitement avec vous pour vous donner de l'appui technique bilatéral. Et nous allons donc, grâce à cela, partager plus d'exemples spécifiques. pour vous fournir de l'appui. Et en ce qui concerne les ressources écrites supplémentaires, nous avons des explainers qui seront en ligne à partir de demain. Nous avons également un manuel d'opération où les détails techniques sont expliqués en termes du processus et des pas de ce processus. Et également, vous pouvez chercher des mots-clés comme HRDDP, etc. Donc, il y a des ressources supplémentaires disponibles pour vous. Et vous pouvez donc les lire et également, vous pouvez donc lire nos termes de référence et comme ça, vous saurez comment le fonds a été organisé et comment on va avancer dans nos différentes étapes ou cycles de programmation. Donc, nous avons des institutions de sécurité lors de ce quatrième cycle qui travaillent étroitement avec nous et donc qui nous appuient fortement. Et donc, on constitue ensemble un vrai groupe de travail. Puis, la proposition du projet doit être envoyée, remise de manière opportune et dans les délais requis, par exemple. Une fois que l'on vous donne le retour correspondant et dans votre prodoc de début et après dans les versions suivantes, et vous pouvez donc nous écrire. Et je vous rappelle que nous avons du financement, mais que nous avons également besoin de montrer des résultats à nos bailleurs de fonds. On peut le faire et donc c'est une condition requise par les bailleurs de fonds, car il faut donc répondre rapidement et d'une manière adéquate.
Merci de votre participation, pour vos questions et nous sommes ravis de commencer à travailler avec vous sur vos documents de projet. Merci de la part de l'équipe et merci à l'équipe pour l'animation de ce webinaire bien réussi aujourd'hui. Merci encore une fois, Martha et Stéphanie, et bonjour, bonne journée, bonne soirée. On se reverra demain pour le webinaire suivant. Merci tout le monde et merci aux interprètes.
Merci tout le monde.